Ben, chers amis, c'est toujours un bonheur pour moi d'être parmi vous, d'autant plus que je vais rester dans le sujet de notre frère sur l'importance de l'Église en général. La dernière fois, nous avons parlé aussi sur l'importance de la vocation de l'Église. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Et c'est vrai que toutes les Églises s'inquiètent ces temps-ci qu'on peut appeler l'époque post-Covid, espérons-le que c'est post, et que tout le monde s'inquiète et aimerait bien voir revenir les habitués des églises dans l'église. Ce n'est pas évident. Alors, on compare parfois l'église à une école. Et nous avons parmi nous des personnes qui ont consacré leur vie à l'école avec grande distinction. Certainement, mais on peut dire qu'une classe d'école, c'est un peu comme une église. C'est une forme de collectivité avec des buts en commun, d'un commun accord. Nous persévérons dans la prière. Les élèves d'une école sont motivés, ils sont disciplinés. Pour l'église, on n'est pas des élèves, mais on est des disciples. Ce qui revient au même, vous êtes mes disciples si vous faites ce que je vous demande. Il y a un professeur pour enseigner dans l'Église, il y a un professeur, et c'est le Saint-Esprit. Le Consolateur, l'Esprit-Saint, vous enseignera toutes choses. On apprend avec un manuel, on a un manuel vraiment de qualité, qui est la parole de Dieu que nous consultons souvent. Alors, toute écriture est utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice, etc. Alors, le sujet d'aujourd'hui, la leçon d'aujourd'hui sera l'arithmétique. L'arithmétique. Il y a quatre opérations de base que nous allons découvrir dans les Actes des Apôtres. Pour beaucoup d'entre nous, les Actes des Apôtres est certainement un des livres préférés du Nouveau Testament et avec raison, parce que nous y voyons l'Église naissante d'une façon merveilleuse. Alors, la première opération arithmétique que nous apprenons à l'école, c'est bien sûr l'addition. Et nous voyons dès les premiers chapitres des Actes l'importance de l'addition. Alors, nous lisons dans Acte 2, au verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole. Donc, il s'agit ici du discours de l'apôtre Pierre lors de la Pentecôte, rappelez-vous. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. C'est intéressant de voir que le mot nombre, en grec, c'est arithmos. Donc on voit déjà là l'arithmétique. Et le disciple augmenta d'environ 3000 âmes. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. La crainte s'emparait de chacun d'eux et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Nous poursuivons au verset 45. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, ils partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église, ceux qui étaient sauvés. Alors, le verbe grec ici, qui est employé au verset 47, est le même qui est employé au verset 41, second traduit par « augmenta » et « ajouté », c'est le mot « prosétitei » en grec qui signifie « additionner ». Donc, nous sommes bien dans l'addition. Il s'agit d'une addition. 3000 âmes en un jour, c'est magnifique comme addition. Bien sûr, il s'agit de la conséquence de la descente du Saint-Esprit. Et Il faut dire aussi que le discours de Pierre était terriblement responsabilisant, parce qu'il dit dans Acte 2 au verset 22, « Homme israélite, écoutez ces paroles, Jésus de Nazareth, à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par des miracles, des prodiges et des signes, comme vous le savez vous-même, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. » Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Donc la réaction était vive quand ces gens se sont sentis accusés par ces paroles. Et au verset 37, il est dit qu'après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Homme frère, que ferions-nous? Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous devenir ?» Et Pierre fait là l'œuvre d'un bon évangéliste, on peut dire, parce qu'il secoue les cœurs, il secoue les âmes. Il n'y va pas par quatre chemins. Au verset 38, il dira, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour tous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin. » Donc, aussi pour nous. Et ça, c'est merveilleux. Et ce qui est étonnant, c'est que ces nouveaux convertis sont baptisés de suite et ils sont appelés disciples. Et Jésus, d'ailleurs, avait donné ce conseil avant de mourir. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Le mot disciple est intéressant parce qu'il nous parle évidemment d'apprentissage, de discipline. Le mot disciple se trouve 278 fois dans la Bible. Et pour le Nouveau Testament, c'est souvent la traduction du mot grec « mathétès » qui veut dire « élève ». Et notre mot français « disciple » vient du latin « discipulus » qui veut dire « élève » qui est instruit par son maître. Et on comprend que le mot « disciple » est plus fort que le mot « converti » ou « adepte » ou « adhérent » parce que le mot « disciple » implique la notion d'apprentissage, de formation. Et les nouveaux chrétiens sont d'emblée appelés des disciples. D'emblée, ils sont engagés dans le corps de Christ, dans l'Église. D'emblée, ils sont baptisés et remplis de l'Esprit, incorporés comme des membres efficaces et utiles aux différentes activités dans l'Église. Ce n'étaient pas des spectateurs. Je crois que là, il y a pour nous une grande leçon. Ce n'étaient pas des figurants, mais des acteurs. C'était des participants, et on le voit bien dans notre texte, parce qu'ils participent au culte, ils participent aux réunions, ils participent aux agapes, ils participent avec des dons, avec des biens qui sont offerts pour le bien de chacun. Et il y a participation à différentes activités de l'Église, aux visites dans les maisons, il y a participation à la louange, à l'évangélisation, au témoignage personnel. Alors, Dieu additionne, mais il n'additionne pas rien que du monde. Il additionne des participants à son Église. Alors, c'est une question que nous avons encore ce matin. Peut-il nous transformer d'adhérents en disciples participants? Parce que c'est ça son plan de formation avec ses disciples. Et c'est une leçon vraiment importante. Alors, nous passons à une deuxième leçon d'arithmétique qui est la soustraction. Et ce qui est étonnant, c'est qu'après l'addition, on apprend les soustractions. Et c'est la même chose dans les Actes des Apôtres, parce qu'à partir du chapitre 4, il y a des soustractions. Il est mentionné des persécutions, il est mentionné des difficultés, et il est mentionné clairement au moins trois soustractions. Et la première qui est mentionnée, c'est dans Acte 5, où il est question de la malheureuse histoire d'Ananias et Saphira. Je lis au verset 1. Un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retient une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, est-ce qu'il ne te restait pas? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira, et une grande crainte saisit tous les auditeurs. Et si vous lisez la suite, Saphira arrive, et pour elle, ce sera le même scénario. Et l'histoire est très interpellante, parce que j'ai l'impression que même Pierre, il a dû être étonné de ce qui arrive. Et il n'a pas dû s'y attendre. Et il a même dû penser que lui, quand il a renié le maître trois fois, il s'en sort encore bien. Mais apparemment, Ananias et Saphira n'ont pas fait grand-chose de grave. Je dis à nos yeux humains. Ils ont déclaré vouloir tout donner, alors qu'en réalité, ils n'ont pas tout donné, ils ont gardé une partie pour eux-mêmes, sans le dire et en disant le contraire. Donc, ils pouvaient très bien le faire, garder une partie pour eux-mêmes. Personne ne leur demandait de tout donner. Mais le problème, c'est qu'ils ont voulu faire croire qu'ils donnaient tout. C'était là qu'il y a eu un problème. Maintenant, il n'est pas dit que parce qu'ils ont été soustraits, qu'ils ont été perdus pour l'éternité. Je vois dans les commentaires qu'on nous donne sur ce texte que beaucoup de commentateurs pensent qu'il y a ici un exemple de ce que Paul appelle la destruction de la chair afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Ça, nous le saurons un jour. Mais aujourd'hui, en tout cas, on dira « c'est un petit mensonge, c'est pas bien grave ». Nous sommes dans une époque de permissivité, de toute façon. Déjà, les dessous de table, les profits cachés, les conflits d'intérêts, les bénéfices exorbitants et douteux sont monnaie courante dans notre société. On est habitué à cela. Tout comme d'ailleurs, la vantardise et lorsque nous faisons des dons, il faut que les gens le sachent. Il y a de ces dons ostentatoires, mais même dans les églises. Et là, on pourrait montrer une petite caricature que j'ai trouvée et qui montre bien cette attitude que nous avons parfois lorsque nous donnons. Il faut que ça se voie, il faut que ça se sache, il faut qu'on puisse s'en vanter. Et heureusement que Dieu n'intervient pas aussi radicalement à chaque tentative. Certains disent que si on faisait la collecte avec des plateaux, on verrait plus de billets dans les plateaux parce que c'est visible que dans les petites boursettes qu'on emploie facilement dans les églises. Il y a même des églises maintenant, on peut payer la collecte avec Bancontact. Alors, c'est bien visible devant tout le monde. Hein, on mène sa carte, mais ça, c'est évidemment, ça, c'est très visible. Il faut dire aussi que, ici, dans les Actes des Apôtres, nous sommes dans une période de réveil, et quand nous sommes dans une période de réveil, l'action de Dieu est visible. Et Dieu donne et il reprend, il agit et il parle, que ce soit favorable à notre point de vue ou non. Nous, on voudrait que Dieu ne fasse que des additions, mais non, quand il agit, il y a parfois des soustractions. Et quand Dieu parle, ça peut être pour ou contre, comme dans la parole de Dieu aux sept églises de l'Apocalypse, où Dieu dit c'est bien, vous faites bien, vous avez raison. Mais aussi Dieu dit, j'ai contre toi. Et le Seigneur a le droit de nous montrer ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, parce que nous sommes des disciples en apprentissage. Alors, Dieu ne cherche pas le nombre pour le nombre. Et nous voyons souvent dans la Bible, dans les histoires de la Bible, que le nombre, Dieu ne le recherche pas. Souvenez-vous de l'histoire de Gédéon dans Juges au chapitre 7. Il devait combattre Madian avec 32 000 hommes. Et Dieu dit, c'est trop. Et après une première sélection, il en reste 10 000. Et Dieu dit, c'est encore trop. Et finalement, il ira combattre avec 300 hommes. Et Dieu lui donnera une grande victoire. Et dans la parabole du semeur, qui est une parabole vraiment avec beaucoup d'enseignements pour nous, parce qu'elle se trouve dans trois évangiles d'ailleurs, Jésus parle des grains qui se lèvent parmi les épines et qui n'arrivent pas à fructifier. Et il explique que ce sont ceux qui entendent la parole, mais qui, par les soucis de ce siècle, la séduction des richesses et l'invasion des convoitises, étouffent la parole et la rendent infructueuse. Donc, il y a des choses qui doivent être éliminées pour ne pas que la parole soit étouffée. Et nous vivons un siècle terrible. Ce sont certainement les derniers temps, et Dieu veut distinguer son corps parmi les nations, et que ce soit l'addition ou que ce soit la soustraction, parce que celui qui est injuste le deviendra encore plus, et celui qui se sanctifie se sanctifiera encore plus, nous dit Apocalypse 21. Alors, c'est l'un ou c'est l'autre, ou nous serons bouillants pour le Seigneur, ou nous serons froids, mais surtout pas tièdes, dit aussi l'Apocalypse. Ça, c'est la loi de soustraction qui se vérifie dans tous les réveils. On voit même dans l'Ancien Testament ce facteur de soustraction dans les réveils, que ce soit par la victoire sur les oppresseurs des ennemis dans Exode et dans les Juges, que ce soit par la destruction des idoles, les réveils avec Ézéchias, avec Josias, ou l'élimination des prêtres païens avec Élie et encore Josias. Et dans 2 Chroniques 17, il y a cette merveilleuse histoire du réveil lors du roi Josaphat, qui malheureusement a basculé parce qu'il a fait des mauvaises alliances. Il n'a pas compris la loi de la soustraction. Et voici un verset qu'on aime citer en faveur du réveil dans 2 Chroniques 7, le verset 14. « Si mon peuple... sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je guérirai son pays. » Ça, nous voulons bien être exaucés des cieux. On voudrait bien aussi que notre pays soit guéri. Ce serait merveilleux, ce serait fantastique. Mais ce qui est souligné là, c'est la loi de la soustraction, n'est-ce pas ? Ça, nous la négligeons bien souvent, s'il se détourne de ses mauvaises voies. Alors le réveil vient quand on accepte d'en payer le prix. Il y a le sacrifice de purification, ce principe de soustraction est fondamental. Il était important pour l'apôtre Paul dans Philippiens 3, au verset 7, il dit « Ces gains, je les ai regardés comme une perte à cause de Christ pour lequel j'ai renoncé, abandonné tout et je les regarde comme de la boue. » Pour Paul, le principe de soustraction était clair. Il dira encore dans 2 Corinthiens 6, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. » Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ? Quelle part est-ce que le fidèle a avec l'infidèle ? Le principe de la soustraction. Et dans Colossiens, Il dira, faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, et qui est une idolâtrie. Et maintenant, renoncez à toutes ces choses. Le mot renoncer est très fort, abandonner. Il faut soustraire ces choses. Et il donne d'autres exemples, la colère, l'animosité, la méchanceté, la calomnie, les paroles équivoques. Ne mentez pas les uns aux autres. Donc, on voit que la soustraction est œuvre de l'esprit autant que l'addition. Et lorsque Dieu agit, il agit dans les deux sens. Nous, on voudrait bien que Dieu toujours apporte, que Dieu toujours bénisse, que Dieu toujours agisse dans le bon sens, dans notre sens. Mais Dieu peut aussi soustraire. Et nous voyons dans les actes deux autres soustractions, si nous poursuivons notre lecture dans les actes au chapitre 7, il y a le martyr d'Étienne, qui est le premier martyr chrétien. Il sera le premier d'une longue liste, parce que à travers les âges, les martyrs seront nombreux, et encore à notre époque, il y a beaucoup de martyrs aux quatre coins du monde. On évalue à 40 millions le nombre de martyrs chrétiens qu'il y a eu en 20 siècles. 40 millions, dont 26 millions au siècle dernier. Plus de la moitié de tous les martyrs, c'était le siècle dernier. Ce qui a fait dire à Tertullien, le sang des martyrs, et la semence des chrétiens. Et c'est vrai que plus il y aura des martyrs, plus le christianisme se multipliera. Et pour être complet, il y a dans Actes 12 le martyr de Hérode qui a été tué d'une façon surprenante parce qu'il se faisait louer et adorer comme s'il était Dieu. Alors, je passe à une troisième opération arithmétique qu'on apprend à l'école. Après la soustraction, on apprend la multiplication, évidemment. C'est important, la multiplication. Et nous le voyons dans les Actes, au chapitre 6, en ces jours-là, le nombre des disciples augmentait. Verset 7, la parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait. Beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la foi. Alors, ce qui ne se remarque pas ici dans le français, c'est qu'à partir du chapitre 6, Luc emploie un autre verbe pour exprimer l'augmentation. Jusqu'au chapitre 6, il emploie le verbe qu'on a mentionné, prosititei, qui veut dire additionner, pour exprimer l'augmentation des disciples. Mais à partir de maintenant, au chapitre 6, il va employer un autre verbe, qui est plétuno, et qui veut dire multiplier, comme s'il passe à une vitesse supérieure. Et on lit par exemple au chapitre 9, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait. Ce n'est plus le verbe qu'il emploie avant, mais le verbe plétuno, qui veut dire multiplier. L'Église se multipliait par l'assistance du Saint-Esprit. Au chapitre 12, il a dit, « Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait. » Toujours ce verbe « plétuno » qui veut dire « multiplier ». Alors, voilà une évolution vraiment remarquable. Dans les cinq premiers chapitres de Actes, les chrétiens étaient additionnés. Mais à partir du chapitre 6, les chrétiens étaient multipliés, ce qui est beaucoup plus important. Ainsi, le nombre, 3000, dans Acte 2, dans Acte 4, ça devient 5000, et plus loin, dans Acte 21, il est question de plusieurs milliers. Si nous continuons notre lecture jusque dans l'Apocalypse, ça deviendra des myriades de myriades. Dans Apocalypse, au chapitre 5, c'est magnifique. Et le pivot de ce changement, c'est acte 6. Et on se demande, mais qu'est-ce qui a fait que l'addition devient multiplication parmi les premiers chrétiens? Eh bien, acte 6, il y a l'institution des diacres. Et ce n'est pas, je ne pense pas que c'est par hasard. Parce que quand les chrétiens exercent leurs dons et les appels qu'ils ont reçus de Dieu envers la société, c'est là que passe l'addition à la multiplication. Et au début, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, acte 2. Puis, à Jérusalem, dans la Judée, la Galilée, la Samarie, et bien au-delà. Au sens mathématique, on peut dire que une addition, c'est linéaire. Il n'y a qu'une abscisse. Mais pour une multiplication, c'est comme si il y a deux abscisses. Parce que là, c'est géométrique, c'est planétaire, la multiplication. C'est tout différent. Alors, il y a un parallèle magnifique avec ce vieux commandement que Dieu a donné tout au début de la Genèse, au premier chapitre de la Genèse, quand il est dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre ». Et la version grecque de ce passage hébreu, en hébreu, mais la version grecque dans la version Septante, elle emploie le même mot pour multiplier, le mot grec « plétuno ». C'est intéressant parce que c'est le verbe que Luc connaissait, parce qu'il connaissait, étant grec, il connaissait l'Ancien Testament en grec. Alors, à partir du chapitre 16, il y a encore mieux que multiplier. Parce qu'à partir du chapitre 16 de Actes, Luc emploie un troisième mot qui est encore plus fort que multiplier. Et il est dit dans Actes 16, le verset 5, « Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient. » Et ici, il n'emploie pas ni le premier ni le deuxième verbe que nous avons vu, mais il emploie un troisième. Le verbe « périsseo ». Et le verbe « périsseo », ça veut dire « surpasser »,« abonder encore plus fort ». En démesure. Et il est dit donc, ils augmentaient de nombre de jour en jour. Et certains commentateurs voient dans cette multiplication-ci une multiplication exponentielle. Pour revenir à notre compréhension mathématique. Et c'est vraiment là encore une belle expression mathématique parce que en changeant le chiffre de l'exposant, on modifie considérablement le nombre de la multiplication, comme dans cet exemple. Si l'exposant est 1, 10 devient 1. Si l'exposant est 2, 10 devient 100. Si c'est 3, c'est 1000. Si c'est 4, c'est 10 000. Et si c'est 6, c'est combien? 1 million, vous vous rendez compte? 10 devient 1 million. C'est ça, la multiplication exponentielle. Donc, les chrétiens, dans Acte 16, ont expérimenté cela. Ils ont donc pleinement obéi au Seigneur et qui avait donné cet ordre avant de monter au ciel. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et voilà ce qui est exactement arrivé d'une façon exponentielle. Alors, je termine par la quatrième leçon d'arithmétique qu'on apprend en primaire, la division. La division. Alors, on a évidemment peur de parler de division, comme très, très bien notre frère l'a mentionné. Et je vais me limiter à en parler d'une façon positive, parce que la parole de Dieu ne cache rien, et elle ne cache pas non plus nos déviations, nos erreurs, les épreuves aussi qui nous arrivent. Et c'est ce qui est étonnant dans la parole de Dieu, elle est d'un réalisme extraordinaire. Et cette quatrième opération se trouve dans les actes. Et nous voyons qu'elle n'est pas nécessairement péjorative. Nous voyons dans acte 8, par exemple, au sujet de la division des premiers chrétiens, il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent. La dispersion, le mot grec c'est « diaspora », qui est devenu un mot français aussi. Ils se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de Samarie. Un peu plus loin, au verset 4, « Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. » Alors, tout indique que ce passage nous est donné comme si les premiers chrétiens étaient trop ensemble. Ils se réunissaient toujours dans le même lieu. Mais Dieu voulait que la bonne nouvelle se répande jusqu'aux extrémités du monde. Et c'est étonnant que la persécution ici a permis cela. Grâce à la persécution, les premiers chrétiens sont devenus missionnaires de lieu en lieu. C'est John Wesley qui a dit que « ma paroisse, c'est le monde. Le monde est ma paroisse. » Et nous lisons dans acte 15 qu'il y a eu aussi une division entre les missionnaires. Il y avait l'équipe de Paul qui se scinde en deux. Il y a eu un désaccord au sujet d'un membre qui s'appelait Jean-Marc. Au verset 39, ce dissentiment fut assez vif pour qu'ils se séparent l'un de l'autre. Vraiment la division dans l'équipe. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Et Paul, lui, choisit Silas et partit, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur, et il parcourut la Syrie, la Cilicie, fortifiant les églises. Alors, moralité, à cause de cette division, au lieu d'avoir une équipe choc, il y en a maintenant deux. Et grâce à cette division, Chypre a été évangélisée. Et il est toujours aujourd'hui. C'est quand même extraordinaire. Alors, on entend souvent dire, « Ah, vous les protestants, vous êtes divisés. » Vous avez déjà entendu ça. Comme si les autres ne l'étaient pas. C'est vraiment étonnant. Parce que les divisions sont partout. Alors, on se plaint parfois d'être baptiste, pentecôtiste, adventiste, méthodiste, et quoi encore, il y a toute une liste. Mais peut-être que cela peut aussi participer à la multiplication. Peut-être que cette division peut participer à ce que l'Évangile soit propager. Alors, le Covid-19 nous oblige aussi à modifier des habitudes et à chercher de nouvelles astuces, tant pour nous se réunir, que ce n'est pas facile, ou pour évangéliser. Mais l'important pour nous, c'est de ne pas perdre notre vision missionnaire. Alors, comme nous l'avons dit, certains se sont désintéressés des réunions, et c'est un vrai problème. J'entends dans plusieurs églises qu'on se plaint de cela et que c'est une difficulté du moment. Les gens se désintéressent des églises et se sont habitués au programme de YouTube. Mais est-ce qu'ils se sont désintéressés de Dieu? Parce que aussi certains sont tellement attachés à leur place dans l'église qu'ils ne réalisent pas leur mission en dehors de l'église. Comme le montre une caricature que j'ai trouvée un peu comique. Parce qu'il y a le prédicateur qui dit que nous devons aller dans le monde pour évangéliser. Et puis, il y a des chrétiens là, tellement enracinés sur leur banc d'église, qu'ils n'iront jamais annoncer l'évangile dans le monde. Bon, c'est exagéré, évidemment, c'est comique. Mais Dieu veut étendre nos cordages. Il veut qu'on soit influent déjà là où nous sommes et bien, bien au-delà. Alors, voyez où nous habitons. Nous habitons des rues, des quartiers, nous habitons des communes différentes. Nous avons des familles, nous avons des amis, nous avons des collègues, nous avons des voisins. Est-ce que tout le monde a bien compris l'Évangile? Nous avons là une responsabilité et Dieu veut nous employer, il veut nous envoyer. Et il veut aussi nous rendre astucieux pour rendre le message de l'Évangile compréhensible. Alors, j'ai entendu l'histoire de quelqu'un qui vivait seul à la campagne et qui voulait évangéliser le monde. Il n'avait même pas des voisins à qui parler. Et puis, il n'avait même pas de famille. Il vivait seul dans une maison. Et alors, il avait lu l'histoire de la multiplication des pains quand Jésus a multiplié 5 pains et 2 poissons dans Marc 6. Et que les disciples proposent de nourrir la foule, mais comment? Ils n'avaient pas de deniers pour acheter de quoi nourrir une foule. Alors Jésus leur pose une question simple et importante. Qu'avez-vous? Qu'avez-vous? Combien de pain avez-vous? Allez voir combien vous avez. Et avec ce qu'ils ont trouvé, le peu qu'ils ont trouvé, Jésus a multiplié. Et ce monsieur avait vraiment été frappé par cette histoire qu'il a lue dans l'Évangile. Et alors, il s'est dit, mais qu'est-ce que moi j'ai? Qu'est-ce que j'ai que le Seigneur pourrait multiplier pour évangéliser le monde? Alors, il a fait le tour de sa maison pour voir ce qu'il avait. Et il a vu dans sa cave des bouteilles. Quelques années, on en boit déjà des bouteilles, n'est-ce pas? Alors, il a continué à faire le tour de sa maison et il a vu que derrière son jardin, il y avait une petite rivière. Il s'est dit, tiens, la rivière, elle va où? Elle va dans un fleuve. Et le fleuve, il va où? Le fleuve va dans une mer. Et la mer, elle va où? La mer va dans un océan. Et l'océan touche le monde. Il a commencé à jeter ses bouteilles dans la rivière. Dans chaque bouteille, il mettait un traité et son adresse. Un bon bouchon bien fermé, hop, envoyé. Quand cet homme est mort, on a vu tout le courrier que ces bouteilles lui ont amené de partout au monde. Et c'était des gens à qui il expliquait l'Évangile et qui l'encourageaient à devenir des disciples parce que les gens avaient répondu à son adresse. Alors, ça c'est quand même extraordinaire, comme le Seigneur peut nous donner une idée pour évangéliser le monde d'une façon nouvelle. Actuellement, il faudrait trouver peut-être d'autres systèmes que celui-là parce que récemment, il y a 2 ans, un Acadien du Québec Il a voulu faire pareil, il a voulu suivre l'exemple. Et alors, il a envoyé 8000 bouteilles pour correspondre avec le monde. Mais en 2013, la police est venue frapper à sa porte avec une contravention de 5 000 $ canadiens pour pollution de l'océan. Donc, il faut que le Seigneur nous donne d'autres idées encore. Et nous devons adapter notre évangélisation à notre époque et à la mentalité présente. Comme l'a dit Luc Dumont, peut-être, voilà, que vous connaissez bien sans doute. Il a dit, on peut me confiner, mais pas prendre ma créativité. Et je crois qu'en dans le domaine de l'évangélisation, nous avons vraiment besoin actuellement de créativité. Et je crois que le Seigneur veut nous le donner. Alors voilà, j'ai terminé. Je résume rapidement l'addition. Christ voudrait que nous soyons tous ajoutés aux chrétiens engagés. Ce n'est pas le nombre qui compte, mais la qualité de notre implication. Alors, nous ne sommes pas seulement des convertis ou des adeptes, mais nous sommes des disciples. Nous grandissons en apprenant au pied de notre maître en vue d'une implication active dans le corps de Christ. La loi de la soustraction, il n'y a pas de réveil sans sacrifice. L'Esprit doit pouvoir opérer des transformations en nous. Il veut nous montrer ce que nous devons acquérir, mais aussi ce que nous devons abandonner. Nos esprits ont besoin d'être purifiés, d'être nettoyés de ce qui déplaît au Seigneur. Il y a encore des mentalités, il y a encore des croyances, il y a encore des liens à abandonner. Il y a des repentances à vivre. Parce que Jésus émonde, il émonde la vigne afin qu'elle produise encore plus de fruits. La loi de la multiplication, oui, Dieu veut que tout être humain parvienne au salut. Tout être humain doit parvenir au salut ou doit comprendre le chemin du salut. Il veut que tous connaissent la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors à nous de la répandre, à nous de semer. Nous sommes des semeurs de la bonne nouvelle. À lui de nous donner un résultat. Il soigne pour la récolte. Les grains vont se semer, se multiplier selon ses plans. Nous ne devons même pas nous inquiéter pour le résultat. Peut-être nous ne verrons pas le résultat de notre vivant, comme cela est arrivé très souvent. Mais à nous le naturel, à Dieu le surnaturel. Et finalement, la loi de la division. Nous sommes tous appelés à être des missionnaires là où nous sommes et bien au-delà, même si les temps sont difficiles. Ne perdons pas la foi. S'il y a persécution, s'il y a un virus, le coronavirus, non, rien ne peut nous arrêter, arrêter notre zèle. Il faudra peut-être changer des méthodes, adapter une nouvelle stratégie, être créatif, inventif. Et il faudra profiter de nouveaux atouts. Comme souvent nous le voyons déjà avec la cybernétique, qu'on peut d'une façon magnifique évangéliser beaucoup de gens. En tout cas, l'Esprit nous montrera, mais soyons disponibles, donnons-nous au Seigneur, et que le Seigneur nous emploie encore davantage. Prions. Ô Seigneur, nous nous prosternons devant toi. Tu es le Dieu des apôtres et nous te louons, Seigneur, pour ce merveilleux livre des Actes des apôtres. Combien, Seigneur, ce livre nous inspire souvent. Nous voulons te remercier pour les exemples de ces premiers chrétiens. Merci pour leur zèle. Et leur exemple, Seigneur, nous motive à vivre les mêmes bénédictions, à accepter les mêmes appels de ta part, à obtenir les mêmes résultats, parce que nous savons que tu ne changes pas. Alors oui, Seigneur, ce matin, nous sentons comme un appel de ta part et nous voulons y répondre. Oui, Seigneur, nous voulons devenir des chrétiens engagés, des chrétiens impliqués. Nous sommes convertis, Seigneur, mais nous voulons être des disciples qui grandissent dans leur apprentissage, des apprentis de notre Maître. Oui, nous acceptons, Seigneur, le principe du sacrifice qui nous semble si difficile. Nous voulons abandonner ce qui n'est pas en accord avec ta volonté. Nous voulons abandonner ce qui freine ton action, ce qui affaiblit ton esprit. Oui, Seigneur, nous voulons devenir des semeurs. Nous voulons devenir des pêcheurs d'hommes. Nous voulons répandre ta parole comme jamais auparavant. Oui, Seigneur, fais de nous des évangélistes. Renouvelle en nous, Seigneur, ta créativité. Tu es créateur et tu nous as créés créateurs. Viens au secours des difficultés de notre temps. Montre-nous, Seigneur, la bonne méthode et garde-nous de toute lassitude, de tout manque de foi. Garde-nous du sommeil. Nous avons soif de ton réveil parmi nous, dans notre contrée, dans notre pays. Dans ce monde, oui, Seigneur, nous nous offrons comme tout à nouveau pour que tu nous emploies pleinement à ton œuvre. Nous sommes à toi, Seigneur. Emploie-nous. Que ton nom soit loué. Nous t'avons prié en ton nom, sachant que ce que nous prions en ton nom, c'est comme une prière que tu as prononcée. Ô Seigneur, merci, à toi la gloire. Amen. Amen.